Eh oui, nous sommes le mercredi 25 octobre 2023. Il sonne l'heure du Club La Presse, émission pour laquelle vous êtes déjà en place à écouter sur les antennes de Canal FM à Lomé, ses environs ici, mais également un peu partout au Togo, sur diverses radios, Radio Lumière, Radio La Paix, Radio Centrale FM, Radio Daoul, Radio Sama FM, Radio Courtoisie, et c'est pas fini, Radio Les Bénins, Ebene Radio ou toutes autres applications numériques transportent nos voix et nos images jusqu'auprès de chez vous. C'est l'œuvre des techniciens Victor Bekoku, Michel Tomega et Jérôme Dakoucha. L'émission que nous animons avec des confrères déjà au studio et une personne ressource. Commençons par les confrères Estelle Koudjanou, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Bonjour Estelle.
Bonjour Sasso, bonjour aux confrères, bonjour à l'invité. Tout le plaisir est pour moi de retrouver les auditeurs et auditrices de Canal FM.
Estelle, c'est la seule directrice de publication d'un journal qui paraît aujourd'hui au Togo, journal dénommé Gazelle Info. Le deuxième invité, lui, c'est le directeur du journal Le Libéral, président de l'OTM depuis quelques années, Fabrice Patom-Petiesi, bonjour.
Bonjour à toi, Sas. Bonjour aux confrères ici présents. Bonjour à l'invité. Bonjour aux techniciens et bonjour à tous les auditeurs.
Merci. Et comme c'est mercredi, nous allons parler naturellement de santé, n'est-ce pas, la belle Ozi?
Bonjour Sas, on est mercredi, on parlera santé. Bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les branchés de Canal FM.
Et nous sommes dans le mois d'octobre finissant, octobre qui porte plusieurs enjeux, dont la problématique de la lutte contre le cancer du sein, sujet que nous abordons aujourd'hui avec Stéphane Domefa Komi-Abiti. Bonjour.
Bonjour Sas.
Tu es le président de la Ligue togolaise contre le cancer. Tu es également le directeur exécutif de l'association Espérance et Vie Nouvelle, cette association qui accompagne les malades du cancer. Merci de te libérer pour nous un moment.
Merci, c'est un plaisir.
Et comme c'est une tradition, nous démarrons toujours l'émission avec une pensée du jour. Et aujourd'hui, le sage nous rappelle que parler est une nécessité, mais écouter est un art. Encore une fois, parler est une nécessité, notamment pour les journalistes, nous, mais écouter est tout un art. Alors aujourd'hui, 25 octobre 2023, c'est le jour du démarrage du marché international de l'artisanat au Togo. Deux journaux se font le devoir de nous le rappeler, Le Libéral et Gazelle Info. Eh bien, Estelle, ça a été annoncé, le sujet a été même débattu il y a quelques jours en Conseil des ministres. Eh bien, c'est aujourd'hui que c'est parti pour le marché international de l'artisanat togolais.
Oui, le décor a été planté depuis un moment. Donc, aujourd'hui, l'ouverture est effective. La ministre était sur les lieux il y a quelques jours.
Laquelle des ministres ?
Kaïm Iveda,
du commerce de l'artisanat.
Voilà, pour vraiment se rendre compte de l'effectivité des installations pour la bonne marche de cette édition. Donc, selon ses propos, tout est fin prêt pour que cette édition connaisse le plus grand succès. Donc, on va dire bon vent. Cette année, l'activité est placée sous le thème de l'autonomisation de la femme en lien avec le numérique, les défis à relever. Donc, nous espérons que les résultats qui vont sortir de cette édition-là seront probants et à l'intérêt des attentes disons, du marché.
Merci Fabrice. L'artisanat, c'est tout un lot de métiers que des femmes et des hommes exercent. J'ai pas en mémoire, mais c'est une bonne partie de l'économie togolaise qui est détenue par les artisans. Ces artisans du Togo et d'ailleurs qui ont quelques jours pour nous montrer tout leur génie, tout leur savoir-faire. L'artisanat également qui est très pourvoyeur d'emplois.
Oui, justement, je crois que c'est à juste titre que l'État togolais a toujours pensé réserver un département ministériel à ce secteur, comme vous venez de le dire, qui est très rentable et qui absorbe également beaucoup de main d'œuvre. Et je crois que l'initiative est très belle puisque Il y avait une foire de l'artisanat comme cela et par le passé, entre temps qui a disparu. Nous espérons que Miato va durer dans le temps et va ressembler à des grands événements à l'échelle continentale comme celui de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est Mansa ou comment ils appellent cela. En tout cas, le fait de faire venir également des pays étrangers permet également à nos artisans de se mesurer avec ceux qui viennent. Cette année, c'est le Mali qui est à l'honneur et c'est un pays également qui est très réputé en ce qui concerne le secteur de l'artisanat. J'espère que les échanges et tout cela permettront quand même à nos artisans également de s'ouvrir à d'autres horizons, parce qu'il ne s'agira pas seulement de nous exposer leurs produits seulement au plan local. Pourquoi pas eux aussi explorer d'autres pays où on organise de ces genres d'initiatives.
Eh bien, le Miato, c'est un espace de promotion des produits et des services artisanaux. Cela s'ouvre aujourd'hui. En plus du Togo, il y a 17 autres pays qui sont invités, dont le Mali, pays d'honneur. Et Estelle, comme ton article le précise, ce ne sera pas moins de 300 stands qui vont exposer tout le savoir-faire des artisans du Togo et de la sous-région.
Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Ce n'est pas que les exposants locaux qui prendront part à la fête. C'est ouvert également aux pays de la sous-région et même un peu plus loin. Donc, l'essentiel, c'est que de cette rencontre-là émergent de nouvelles idées, de frotter en fait les cervelles contre celles d'autrui et tirer profit le maximum possible pour l'amélioration d'abord de nos productions ici sur le plan local également. Et puis s'il y a un défi aujourd'hui, particulièrement par rapport à la qualité des produits et à l'empaquetage également. Donc tirer le meilleur profit pour l'amélioration de tous ces manquements-là et explorer d'autres horizons.
Et bien sûr, ce sera au Palais des Congrès, l'Esplanade, sûrement également quelques bureaux du Palais des Congrès qui seront réquisitionnés. C'est l'occasion d'aller acheter des cadeaux souvenirs. Également, comme nous approchons de la fin d'année, préparer des cadeaux de fin d'année pour les parents, les amis, les collègues d'ici et d'ailleurs.
Surtout que c'est des créations uniques parfois avec certains artisans. Ouais, tu as des exemplaires uniques et puis c'est juste
merci,
parfait.
Merci, mais pour aller au marché international de l'artisanat togolais, il faut être en bonne santé, n'est-ce pas, Abel Ozi?
Il faut toujours être en bonne santé.
Toujours la bonne santé, la bonne santé dont nous avons besoin après le souffle de vie. Il y a quelques jours, c'était le 10 octobre, journée mondiale de la santé, que Santé Éducation nous rappelle aujourd'hui. Alors, à l'occasion de cette journée, comme ces derniers temps, on voit beaucoup Mme Myriam Dossou d'Almeida, ministre en charge de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, qui fait beaucoup de sorties et qui a encore mis l'occasion du 10 octobre à profit pour sortir et s'adresser particulièrement à la jeunesse. Abel.
Oui, on l'a rappelé la fois dernière, le mercredi passé, et on a même mis un carton vert à son endroit pour son combat, son engagement envers cette jeunesse. Et Madame la ministre Dossou d'Almeida qui œuvre pour que la jeunesse togolaise soit en bonne santé. Mm-hmm. Et son combat, c'est en faveur de la lutte contre les substances psychoactives, oui. C'est-à-dire les drogues, la chicha, toutes ces substances-là qui mettent en péril la jeunesse togolaise. Donc, et elle prend tout son engagement pour dire non, il faut que les jeunes arrêtent, il faut que les jeunes soient conscients en fait que ce phénomène ne puisse pas être un péril pour leur santé.
Merci Myriam Dossou d'Almeida, ministre en charge de la jeunesse, mais surtout maman elle-même ne cesse d'exhorter la jeunesse. Elle l'a dit en son langage de bois, notre jeunesse qui risque d'être décimée par cette forte propension de la consommation du cannabis, d'autres psychotropes et de l'alcool, la drogue qui s'invite dans notre pays un peu partout, dans les quartiers, les ghettos, se multiplient. Et Myriam Dossou d'Almeida qui exhorte la jeunesse togolaise à prendre conscience de son rôle dans le développement du pays et à faire des choix judicieux pour préserver sa santé aussi bien physique que mentale. Mensana incorporé sano, Une âme saine ne peut vivre que dans un corps sain. Abel, on ne le répétera jamais aux jeunes.
Exactement. C'est encore un cri d'alerte à l'endroit de nos jeunes, surtout de nos scolaires, parce que c'est aussi la cible importante. Et il faut qu'on prenne conscience de ça, parce que la santé, elle n'a pas de prix.
Merci. Nous ne le dirons jamais assez pour rappeler notre jeunesse et nous-mêmes, pourquoi pas, à la responsabilité individuelle et collective. Et comme nous parlons de santé mentale, cet article à la page 7, les maladies mentales, symptômes d'alerte, certains troubles liés au comportement, à l'humeur ou à la capacité d'établir des relations avec les autres sont des indicateurs de la présence d'une maladie mentale. Article qu'on lira à la page 7, c'est bien écrit. Abel, maintenant, intéressons-nous à la santé de notre appareil respiratoire avec ces deux articles à la page 4. D'abord, vous parlez de la pneumonie, cette maladie, une infection respiratoire causée par une bactérie appelée pneumocoque, mais aussi elle peut être due à un virus, soit du rhume et de la grippe ou un champignon. Cette pneumonie qui fait beaucoup de dégâts parmi les enfants de bas âge.
Exactement, c'est une maladie, c'est un enjeu de santé publique, une maladie grave et mortelle, surtout pour les personnes âgées et les enfants. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en bonne santé aussi ne peuvent pas l'attraper. Mm-hmm. Donc, on met l'accent sur cette maladie en disant en instant que c'est une maladie mortelle. Donc, la pneumonie, c'est quoi? Comme vous le dites, elle est causée par une bactérie. Donc, cette bactérie, quand elle s'infiltre dans les poumons, ça détruit en fait les tissus pulmonaires. Et quand ça détruit ces tissus pulmonaires, on peut avoir une détresse respiratoire. On a du mal à respirer. Et quand on a du mal à respirer, attention, c'est le cœur qui lâche. Et quand le cœur lâche, et c'est la mort. Donc, on exhorte encore, on interpelle encore tous les enfants, en fait, tous les parents d'enfants à surveiller, en fait, la respiration de leurs enfants. Si la respiration est sifflante, si on voit que l'enfant a un manque d'air, attention, il faut l'amener à l'hôpital.
Beaucoup de soins aux enfants de bas âge, hein, pour qu'ils ne souffrent pas de pneumonie. Et pour les enfants de bas âge, nous rappelons que hier, c'était la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. L'occasion encore pour rappeler aux parents de veiller à ce que les vaccins soient administrés à temps pour mettre les enfants à l'abri de cette maladie, la polio, maladie très invalidante qui peut rendre vos enfants infirmes à vie. Mais revenons à la santé de l'appareil respiratoire avec les poumons, dont vous nous donnez ici quelques signes d'alerte pour nous indiquer que nous pourrions souffrir de quelques maladies de poumons.
Exactement. La fois dernière, l'apparition passée, on a parlé des reins. On a parlé des reins malades, les signes qui alertent, qui indiquent un rein malade. Cette fois-ci, nous parlons des poumons. Encore des signes qui indiquent que nos poumons sont malades. Et on met l'accent sur ces signes pour alerter encore. Et l'un des signes en fait, marquant, c'est la fatigue constante. Mm-hmm. Quand chaque temps on est fatigué, avant peut-être vous pouvez marcher 10 minutes, 5 minutes sans vous essouffler. Maintenant, même à 1 minute, 2 minutes de marche, vous sentez une fatigue constante. Attention.
Ou bien quand vous gravissez juste l'escalier d'un étage pour venir à Canal FM, voilà, que vous sentez essoufflé, ça peut être une alerte.
Voilà, une alerte. Donc vos poumons sont touchés. Et donc, ce manque d'air, cette fatigue constante, donc attention, c'est des signes, c'est des alertes qui montrent que, attention, nos poumons sont gravement malades.
D'autres signes comme des sifflements, comme de l'expectoration, voilà, de la pression sur la poitrine et bien d'autres signes que nous découvrirons à la page 4 de santé et éducation. Alors, une circonstance qui peut nous exposer à une maladie éventuelle des poumons, voire à une intoxication familiale, c'est ceux et celles qui sont pendant longtemps exposés aux fumées de la cuisine.
Oui, aux fumées de la cuisine. Et c'est vrai, aujourd'hui, dans beaucoup de ménages, nous préparons avec du bois de chauffage, avec des combustibles solides. Mm-hmm. Et quand on prépare, ces fumées noires qui s'évaporent sont aussi toxiques. Donc, quand on les inhale, attention, elles s'infiltrent dans nos poumons et peuvent être logées là-bas et causer d'autres maladies cardiaques, par exemple. Pas seulement pulmonaires, mm-hmm. mais ça peut aussi causer des maladies cardiaques. Donc, c'est encore une alerte qu'on donne à la population de toujours prendre des mesures. Quand nous préparons avec le bois du chauffage, ça, là, de toujours prendre des mesures pour ne pas inhaler assez de fumée. Parce Merci, que notre santé en dépend. Et dans l'article, vous allez voir que le spécialiste a donné quelques recommandations pour minimiser les risques et surtout également protéger notre environnement.
Merci. Je pense à ces femmes des villes et campagnes qui cuisinent avec le bois de chauffe ou bien avec le charbon, qui respirent ces fumées, ces odeurs toute une vie. Estelle, une pensée à l'endroit de ces braves dames.
Oui, une pensée à l'endroit de toutes les femmes, puisque même si on est en ville aujourd'hui, on est tenté d'utiliser parfois au moins du charbon du bois, mm-hmm. ou par rapport à la préparation du fagot du bois, compte tenu du résultat qu'on veut obtenir, et par rapport au choix de cuisson. Donc, beaucoup de courage à toutes ces femmes-là, et prenons également les précautions. C'est vrai que parfois, ça dépend du lieu auquel on a installé ces fourneaux-là, soit la fumée est confinée et on est en même temps dedans. Mm-hmm. Donc, on peut peut-être trouver un endroit un peu plus aéré si on veut utiliser du charbon de bois ou des fagots de bois pour évacuer au moins la fumée et rester en bonne santé. C'est
Merci.
Important.
Merci. Nous attendions un confrère qui nous a rejoint. C'est Kokou Sylvestre Béni du journal La Manchette. Bonjour, Kokou.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous.
Merci. Stéphane Aviti, rebonjour.
Bonjour, Sass.
Eh bien, le président de cette ligue, toi qui te bats contre, qui te bats dans la lutte contre le cancer du sein durant des années, félicitations, beaucoup de courage à toi-même et à tes collaborateurs.
Merci beaucoup.
Eh bien, nous sommes donc en octobre, octobre finissant, octobre consacré à la problématique de lutte contre le cancer du sein. Quel est le thème sous lequel cette lutte est placée cette année, Stéphane?
Merci beaucoup. Et d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes les personnes victimes du cancer, spécialement le cancer du sein. Et le thème de cette année, c'est le même thème de l'année passée, reconduit cette année, cancer du sein pour un accès plus juste et équitable mm-hmm. aux soins. Agissons tous ensemble. Mm-hmm. Donc, je pense que l'accès aux soins, c'est la problématique qui est toujours d'actualité, qui est le problème épineux de cette lutte contre le cancer.
Alors justement, quelle est la situation de cette maladie cancer du sein chez nous ici au Togo?
Avant de parler de notre pays, il faut reconnaître que depuis 2020, le cancer du sein a pris la première place dans le monde et avec 2 300 000 cas de fréquence et avec plus de environ 700 000 de décès pour la même période. Mmh. Et pour le Togo, nous pouvons évalué selon le Globocan, environ 900 000 femmes sont atteintes du cancer du sein.
Pour celles qui se sont fait dépister, ça?
Oui, ça y est, c'est les données venant de l'extérieur, à l'international. Mm-hmm. Mais ça ne trompe pas, c'est à peu près la situation. Mm-hmm. Et avec ce chiffre, on dénombre environ la moitié qui sont décédées pour la même période. Donc si nous pouvons dire simplement, avec des mots simples, plus d'une femme décède du cancer du sein chaque jour. Mm-hmm. Voilà.
Situation qui doit faire froid dans le dos. Alors, si la situation est si alarmante, qu'en est-il des modalités de prise en charge de la maladie, aussi bien en termes de prévention, dépistage, ou de prise en charge même des cas avérés de maladie?
Bon, je pense que la problématique se situe à ce niveau. Le Togolais n'a plus la bourse pour pouvoir au moins prévenir cette maladie. Quand vous sensibilisez les gens, vous vous rendez compte que les gens n'ont même pas l'argent pour aller faire le simple dépistage de mammographie, qui coûte environ 35 000 francs.
35 000 francs, c'est
oui,
ça. Pour le dépistage de mammographie.
Pour pouvoir vraiment dépister le sein, les seins, les deux seins. Et voir s'il y a quelque chose. Parce que c'est la mammographie seule qui peut aller surprendre le cancer au stade de développement. Avec l'autopalpation que nous faisons sur le terrain chaque fois, c'est bien, mais la meilleure est prévention, le dépistage même, c'est avec la mammographie. Les gens, il y a les cliniques qui le font à 22 000, 30 000, 35 000, mais nous prenons l'extrême. Donc, Si vous demandez à une femme d'aller faire le dépistage, elle dit, mais je ne ressens rien. Et pourquoi aller dépenser cette somme alors que ça peut acheter beaucoup de bols de maïs pour pouvoir prendre en charge la famille? On comprend bien, mais le drame que cause le cancer aujourd'hui, nous pensons que nous allons de là pour dire à la femme que quand le cancer va survenir dans votre vie, vous ne pouvez rien faire. On peut vendre toute la maison, vendre toute... La famille peut cotiser, mais c'est un compteur de chaque jour vers la mort. Donc, le dépistage, la prévention, quand vous parlez de la prévention, c'est ça la situation. Et c'est à cause de ça que nous avons fait les campagnes de dépistage chaque année d'Octobre Rose, depuis 2009 qu'on a initié ce projet, pour diminuer. Et la femme ne paie qu'un tiers. Ça dit 12 000 francs, la femme paie un tiers pour pouvoir avoir accès à ce dépistage. Et même, ce n'est pas seulement la mammographie qu'on fait pendant les campagnes de dépistage. Il y a l'échographie mammaire. Si on a une anomalie qu'on doit coupler ça avec l'échographie mammaire, la femme ne paie plus rien. Alors que ça a un autre coût après. Donc, c'est ce qui est réservé.
Alors, justement, durant ce mois d'octobre, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent à vous pour se faire dépister, d'autant plus que vous prenez cela en charge pour le tiers?
Oui.
Pour les deux tiers, que la femme ne paie que le tiers.
Oui, depuis 2009, on n'a jamais changé cette stratégie. Oui. La femme ne paie que 12 000 francs dans toutes les cliniques.
Mais est-ce que les femmes viennent à vous pour se faire
dépister? Elles viennent parce que au fait, c'est pas la femme. Les femmes ne viennent pas vers nous, mais elles y vont dans les cliniques et hôpitaux partenaires pour aller se faire dépister. Elles nous appellent, on les oriente selon leur localité. Ce matin, par exemple, il y a plusieurs femmes qui ont appelé pour voir comment ça se passe. Donc, la femme peut aller se faire dépister. Mais dépister, après le dépistage, l'accès aux soins, c'est ça le plus grand enjeu aujourd'hui. Le grand défi aujourd'hui, c'est que la femme, on a conscientisé, on a fait la promotion de la lutte contre le cancer du sein, qui a pris vraiment un tollé. Toute la population est maintenant ébranlée, passionnée de cette lutte aujourd'hui. Mais, après le dépistage, parce que déjà juillet, les femmes nous appellent pour voir si on fera la campagne de dépistage. Ça aussi, c'est une erreur. La femme ne doit pas attendre l'octobre rose pour faire son dépistage. Si elle sent à un moment donné pour faire son dépistage, elle n'a qu'à aller le faire. Et si elle ne le fait pas en ce moment-là, elle peut le faire en octobre.
Ça aussi, c'est important. Le dépistage, mammographie et autres, faut pas ce n'est pas seulement en octobre.
Non, c'est une erreur. Maintenant, pour l'accès aux soins, la femme accepte aujourd'hui de faire le dépistage. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus de problème. Maintenant, après le dépistage, la femme se rend compte qu'elle a quelque chose dont le médecin dit il faut faire les examens. La biopsie, l'immunohistochimie, le scanner, tout ce qui s'en suit pour pouvoir maintenant voir le contour et apprécier quel type de cancer, quel type de tumeur, quel niveau c'est arrivé, etc. Il faut dépenser des sous. Il faut dépenser minimum 200-300 000 francs. Et ça ne compte même pas.
Il y a des centres et des laboratoires ici au Togo.
Oui. Il n'y avait pas avant l'immunohistochimie. Je peux dire que depuis 2 ans, 3 ans, on a l'immunohistochimie. L'année passée, même nous, on a pris 20 femmes en charge pour pouvoir faire l'immunohistochimie. Elles n'ont payé que 20 000 francs. Nous avons subventionné ça. Elles n'ont payé que 20 000 francs, alors que l'histochimie coûte environ 65 000 francs. Donc, avant, c'était à l'extérieur qu'on envoie les prélèvements. Mais aujourd'hui, c'est au Togo. Je pense que c'est une avancée. C'est une avancée. Maintenant, après les examens, les analyses, tout ça là, il faut que la femme subisse une opération. L'opération, c'est entre 400 et 600 000 francs.
Opération
du sein.
Ablation.
Il faut enlever. Donc, il y a deux sortes d'opérations. Il y a la chirurgie conservatrice. Il y a la chirurgie radicale. Si la tumeur est avancée à un niveau donné et qu'il y a nécessité d'enlever le sein, on doit l'enlever. Mais si la tumeur n'est pas avancée, parce qu'un centimètre déjà de diamètre, la tumeur est déjà avancée. C'est ce que l'OMS nous dit. Donc, imaginez que la femme qui se fait opérer à 400-600 000 francs, dans le privé ou bien dans le public, qui doit maintenant suivre le protocole de chimiothérapie. Donc, une séance de chimiothérapie avoisine parfois 500 000 francs, voire dépasser, et doit faire 6 séances de chimiothérapie. Et voire plus, va dépenser autour de 3 millions et quelques, sans en parler de la radiothérapie. Aujourd'hui, nous saluons qu'il y a un centre de radiothérapie au Togo, parce qu'avant, c'est la croix et la bannière pour les femmes qui traversent les frontières pour aller faire cette prise en charge de radiothérapie à l'extérieur. Donc, le parcours du combattant, le parcours de la femme qui souffre du cancer du sein aujourd'hui, c'est une problématique qui en vaut la peine d'être vraiment réfléchie et mûrie pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que le Togo n'est pas un pays à sous-estimer. Nous avons vraiment de bonnes résolutions et de bonnes stratégies. Si Dakar, Sénégal a pris en charge aujourd'hui les femmes qui souffrent du cancer du sein du col de l'utérus, et le Burkina a emboîté le pas l'année passée pour dire que toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein du col de l'utérus sont prises en charge par l'État, je pense que nous ne sommes pas loin.
Alors justement, est-ce que des associations comme la vôtre, est-ce que vous faites de tels plaidoyers à l'endroit des décideurs, des pouvoirs publics et pourquoi pas les bonnes volontés?
Oui, je peux vous dire que nous siégeons dans toutes les commissions qui statuent sur la problématique, les questions du cancer. Et nous avons fait beaucoup de résolutions en commission que nous avons restituées. Nous, on ne peut pas décider quelque chose. Les plaidoyers, on le fait au quotidien. Nous travaillons main dans la main. Nous travaillons même parfois avec le ministre. Ça, je peux vous dire que nous avons...
Et à l'endroit des députés?
Les députés, on n'en a pas encore vu. L'année passée, par exemple, on a envoyé un courrier pour qu'on puisse vraiment sensibiliser l'ensemble des députés pour faire un plaidoyer. Mais on n'a pas eu le retour. Mais je pense qu'on va toujours accélérer, on va toujours avancer. Et je pense qu'un jour... on arrivera à un niveau donné.
Vous rappelle juste que c'est les députés qui votent les lois.
Tout à fait.
Nous avons la chance que c'est une dame qui préside l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Les députés qui ont un certain pourcentage assez conséquent de femmes.
Oui.
Eh bien, si votre association, la Ligue, Ligue Togolaise contre le cancer, ou bien l'association Espérance et Vie Nouvelle, et toutes les bonnes volontés, si on se met ensemble pour faire un lobbying ou bien un plaidoyer conséquent, aussi bien à l'endroit du gouvernement que de l'Assemblée nationale, et avec les moyens dont dispose l'État, on pourra faire une subvention totale ou partielle. Oui, Fabrice?
Oui, ça, c'est quand même de donner la parole à cette association, parce que j'ai observé notre ami pendant qu'il parlait, je me dis que c'est un sérieux problème. Parce qu'au même moment où on dit octobre rose, sensibiliser les femmes pour qu'elles fassent le dépistage. Ce raisonnement bête, à quoi ça sert de faire un dépistage d'une maladie dont vous n'aurez même pas les moyens de soigner? C'est ce raisonnement. Il est un peu bête, mais je crois qu'il lance un débat.
Oui.
Et le débat aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faut effectivement peut-être avoir un fonds au-delà du dépistage, être capable de subventionner ces traitements-là qui sont très coûteux. Je suis content pour Wezou, oui, on donne la vie. Mais quand elle donne la vie, il faut qu'elle soit vivante pour s'occuper de l'enfant qui est né. Et là, aujourd'hui, excusez-moi, j'interpelle toutes ces grandes dames qui sont à des pauses. On dit oui, bon, ouais, on fait la promotion de la femme pour que ça ne se limite pas seulement à occuper des pauses. Mais je crois qu'il faut qu'elle fasse un lobbying. C'est pas seulement une question d'hommes, mais on a la chance d'avoir aujourd'hui des femmes à la tête des institutions qui ont un pouvoir de pouvoir influencer beaucoup de choses. Je crois qu'il faudrait qu'au moins pendant le mois d'octobre, au-delà du message pour sensibiliser les femmes à venir se dépister, je crois qu'il faut aussi lancer le débat sur le caractère coûteux aussi bien du test de dépistage et puis également de la prise en charge au cas où le test se révélait positif. Parce que les coûts qu'il vient de donner là, j'avoue que ça va être un peu difficile.
Merci. Et toi, Kokou, Sylvestre?
Oui, en fait, je voulais aller dans le même sens en revenant un peu sur le plaidoyer. C'est vrai qu'il l'a dit, les plaidoyers, nous en faisons tous les jours, mais est-ce que le cas togolais n'est pas déjà alarmant qu'on puisse véritablement échanger avec les autorités? Vous avez donné le cas du Sénégal, le cas donc du Burkina Faso. Est-ce que, comparé donc à ces deux pays-là, est-ce que le Togo, est-ce que ce n'est pas déjà si alarmant pour que vous puissiez véritablement donc frapper à toutes les portes, comme on le dit, peut-être de manière vieux cœur, pour qu'on puisse véritablement vous aider? Puisque, moi je l'ai dit, j'ai eu une tante qui a véritablement souffert donc de cette maladie. Sa fait a été véritablement atroce. On ne peut pas distinguer donc son pied et son bras. C'est pratiquement la même chose. C'est tellement enflé. Mais ces derniers jours, lorsque vous voyez ces derniers jours, véritablement, vous ne pouvez pas tenir deux minutes avec elle. Donc il faudrait que vous puissiez continuer donc dans le plaidoyer. Vous en faites tous les jours, d'accord. Mais maintenant, allez directement voir ces femmes-là qui sont dans le cadre des postes de responsabilité. Je crois que si on nous dit aujourd'hui, selon la situation, qu'une femme décède tous les jours, je crois que c'est déjà alarmant qu'on puisse donc prendre des dispositions.
Merci Stéphane, mais n'oublions pas la question, entre guillemets, bête de Fabrice. À quoi sera sert-il d'aller se faire dépister quand on sait qu'on n'a pas les moyens de se faire traiter en cas de positivité de la maladie? Stéphane.
Merci beaucoup pour la question. Nous avons étudié tout le contour, toute cette problématique, cette question. Pourquoi aller se faire dépister si on n'a pas les moyens
de
se faire traiter? Je pense que ça, on essaie de voir l'urgence qui concerne le dépistage précoce. Parce que si on laisse la population dans l'ignorance ou bien dans cette démotivation pour ne pas faire le dépistage précoce, je pense qu'on n'arrivera pas à faire une bonne lutte dans cette lutte contre le cancer du sein. Donc, pour vous parler d'une anecdote, c'est une dame qui est venue lors d'une campagne de dépistage, qu'elle a écouté la sensibilisation, pas sur tous les médias qu'il y a le dépistage, et elle est venue tout souriante, et voyant le professeur, elle dit, bon, moi, si je suis venu faire mon dépistage, pour me mettre à l'abri. Monsieur Sass, après son dépistage, il s'est avéré qu'elle a un début du cancer du sein. Si on n'avait pas fait cette campagne de dépistage, je pense que cette dame serait surprise par une tumeur qui allait encore aller de l'avant et ça serait peut-être trop tard. C'est pour vous dire que dans le lot de ces personnes que nous exhortons pour pouvoir aller se faire dépister pendant les campagnes, il y a une bonne partie qui peut se faire prendre en charge. Et l'autre partie qui ne peut pas se faire prendre en charge, nous nous battons au quotidien. En tant qu'organisation non gouvernementale, on se bat au quotidien pour pouvoir trouver des moyens pour pouvoir les accompagner. Et je peux vous dire qu'on a essayé pendant plusieurs années, mais l'année passée, je coupe seulement pour parler de l'année passée, cette année. L'année passée, par exemple, on a essayé, les femmes, il y a une femme qui a fait 3 ou 4 séances de chimiothérapie et n'avait plus les moyens pour pouvoir le faire. On a tout fait, on a mobilisé pour faire les 2 séances de chimiothérapie récentes, monsieur Sass. Maintenant, quand on a mobilisé, quand on a aidé les femmes, les 20 personnes, les 20 femmes qu'on a dit qu'on a subventionnées, toutes les femmes de ces 20 femmes qui ont été vraiment compatibles, hormonodépendantes, pour pouvoir bénéficier de la chimiothérapie orale, parce qu'il y a 2 formes de chimiothérapie. Pour la chimiothérapie orale, toutes les femmes viennent prendre les produits parce que nous avons eu une aide de l'extérieur pour pouvoir mettre en place le produit qu'elles devaient utiliser. Et elles viennent prendre ça gratuitement. Mais c'est une goutte d'eau dans le mar. C'est pas tout le lot que nous arrivons à absorber, à prendre en charge. Cette année, par exemple, le 4 octobre passé, nous avons tout fait pour pouvoir avoir aussi une aide, un don d'environ 3 500 000, disons 5 millions et quelques. Parce que les femmes qu'on a ramenées, elles sont parties avec au moins 130 000 francs chaque femme. Ça, c'est grâce à la maison et Hadj. Pour que les femmes qui n'en peuvent plus pour faire la chimiothérapie puissent bénéficier. C'est moi-même qui allais acheter les produits. Donc, les femmes vulnérables, indigentes, qui souffrent de ces problèmes de cancer du sein, qui sont essoufflées pour le traitement, sont prises en charge au moins aujourd'hui avec les dons que nous avons. Il suffit que vous appelez pour la programmation de votre chimiothérapie et on vous accompagne. Mais ce n'est pas toutes les femmes que nous arrivons à absorber pour pouvoir les prendre en charge. Mais la question, entre griffes, bête de faire dépister et de laisser les femmes sans traitement, je pense que cela mérite, ensemble, ce n'est pas nous seuls, l'État, les sociétés, les fondations, les banques, tout le monde doit contribuer à cette lutte aujourd'hui. C'est pas une question d'organisation ou bien de moi qui se tiens devant vous. C'est un ennemi commun que nous avons aujourd'hui au Togo. C'est le cancer. Comme l'a dit le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, si la maison de votre voisin se brûle là, la vôtre n'est pas si loin. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit vraiment adhérer à cette lutte contre le cancer.
Merci. Je comprends ton émotion que tu nous communiques bien malgré toi. Stéphane Domefa Komi-Aviti, qui est le président de la Ligue togolaise contre le cancer, il est en même temps le directeur exécutif de l'association Espérance et Vie Nouvelle. Il nous a dit une partie de ce qu'il fait au quotidien et nous comprenons qu'il faut se mettre ensemble et aller se faire dépister. Plus tôt on se fait dépister et plus on a de chances de s'en sortir avec la prise
en charge. Et on dépense moins.
Merci beaucoup.
Et on a une longue vie. Et on a même totalement la vie devant elle.
Alors, mais ton association... Oui, Estelle?
Non, mais le côté de mise en place des structures de prise en charge et de la subvention de la maladie est vraiment très, très, très important. C'est à ne pas ignorer.
Tout à fait.
Moi, j'anticipe même sur cette publicité-là autour de l'assurance maladie universelle aujourd'hui. C'est la même problématique qui risque d'arriver. Oui. Promenez-vous un peu dans les centres de santé aujourd'hui. Regardez un peu ce qui s'y passe. Et pendant qu'on est en train de clamer assurance maladie universelle, assurance maladie universelle, mais comment est-ce que les patients peuvent bénéficier de ces soins-là si les structures hospitalières ne sont pas à même de recevoir une quantité abondante de personnes ou les traitements ne sont pas adéquats? Donc, je pense vraiment qu'il faut interpeller les autorités. Si elles nous écoutent, c'est des sujets urgents sur lesquels on ne doit pas lésiner. C'est des vies, c'est des milliers de vies qui sont en danger et qu'on doit taper du poing sur la table pour prendre des mesures urgentes pour venir en aide à ces personnes-là, à ces femmes vulnérables. Et on n'en a jamais assez pour recevoir encore de l'aide. On en a toujours besoin pour qu'elles agissent, en fait. C'est vraiment important.
Juste rappeler que quand nous parlons du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, c'est des maladies qui attaquent les femmes. Et les femmes, c'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est notre épouse à nous-mêmes, c'est notre fille, c'est notre collègue, c'est notre voisine, et pour ne pas dire plus. Donc, le mal est dans la cité. Et pour équilibrer, malheureusement, si les femmes ont leur cancer du sein et leur cancer du col de l'utérus, nous, les hommes aussi, nous pouvons avoir le cancer de la prostate.
Oui,
nous parlons aujourd'hui des femmes. Mais un prochain jour, Fabrice, nous allons avoir le courage de parler de nous-mêmes, surtout quand l'âge avance et que nous exposons à de telles maladies. C'est faire au moins non. En parler.
Même indirectement, quand la femme est malade dans la famille, c'est toute la famille qui est déjà malade. Oui, oui. Donc ça va de soi.
C'est en dernière position, on pense à l'homme.
Non.
Quand le bateau veut charbonner, on sauve les enfants, et les femmes, les vieillards, les hommes.
La femme,
grand gaillard peut se débrouiller.
La femme est le socle de la famille. La femme, c'est sur la femme que repose beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est ça qui est plus visible. Mais on n'ignore pas les sommes. Mm-hmm. Parce qu'on est en train de penser depuis plusieurs années, mais si tout marche bien, le mois de novembre serait destiné à la prévention du cancer de la prostate chez la femme.
Chez l'homme,
pour que l'homme aussi ne se sente pas lésé ou bien rester en banc de touche.
Merci Stéphane, tu es à nos côtés. Il est 11h31. Dans 22 minutes, nous allons ouvrir les micros. Les auditeurs pourront intervenir par des questions ou des commentaires. Pendant ce temps, nous nous transportons au palais de la justice avec le tribunal de grande instance qui accueille cette audience de la justice militaire depuis 3 jours. Revue de presse avec le Magnat Libéré commençons plutôt avec Focus Info paru aujourd'hui qui titre « Affaire Bitala Majulba, le général Félix Kadanga à la barre ». Un sujet que le Magnat Libéré améliore en écrivant le général Félix Kadanga et 6 co-accusés à la barre. Le triangle des enjeux, lui aussi, en parle. Complot d'assassinat, complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Félix Kadanga est co-accusé à la barre. Pacha Nyasimbe est co-accusé vers la fin. Le messager, lui, à la page 4, écrit « Affaire colonel Majulba, jour 3 du procès aujourd'hui, 3 personnes clés déjà passées à la barre. » Et à ce sujet, hier, quand nous en débattions, une information avait été dite que le général Kadanga serait passé à la barre et aurait avoué avoir été torturé à l'ANR. Après recoupement, Kadanga n'est pas encore passé à la barre. Mais c'est le principal accusé, à savoir le sieur Sangui Nyendukwa, qui est passé à la barre et qui a déclaré avoir été torturé à l'ANR. Nous nous excusons pour cette information un peu précipitée. C'est Sangui Nyendukwa qui a déclaré avoir été torturé à l'ANR et pas Kadanga qui n'est pas encore passé à la barre. Nous continuons avec la manchette qui écrit lui aussi « Procès Majulba, les pas de l'incertitude » pendant que la dépêche à la page 4 écrit le procès de, sur l'assassinat du colonel Madjoulba sous des bruits de bottes, hein, un procès au garde-à-vous, comme l'écrit la dépêche. Et quant à Gazelle Info, ce journal attend seulement le dénouement de ce procès que nous attendons vivement. Alors, tour de table avec Kwaku Sylvestre. C'est un procès qui a son troisième jour. Et même si la presse n'est pas autorisée à couvrir, nous avons quand même des indiscrétions qui nous font, qui font que nous partageons quelques informations entre nous et avec le public.
Oui, c'est vrai que la presse n'est pas invitée. Moi, je parle donc de...
Bon, la presse n'est pas autorisée à couvrir.
Non, où est est-ce que qui nous a dit? Non, écoutez, c'est là où je parle donc de violation de la loi. Parce que lorsque vous prenez les dispositions, hein, la loi qui a institué donc le tribunal militaire, vous prenez donc l'article 92, le premier alinéa, il est dit que c'est si seulement la publicité des débats peut porter gravement atteinte, hein, donc à l'ordre, c'est-à-dire atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs et tout, là, le tribunal peut ordonner le huis clos des débats. C'est ce que la loi dit, l'article 92, le premier alinéa. Mais jusqu'à preuve de compte, jusqu'à ce matin, il est 11h42, personne ne nous a dit que le débat, du moins le tribunal a ordonné le huis clos. Juste à 11h42, personne ne nous a dit. Donc ça veut dire que normalement, nous sommes autorisés à aller suivre donc les débats. Alors si on nous empêche, donc ça veut dire qu'il y a problème. Voyez-vous, si on nous empêche, il y a problème. Et lorsque vous prenez donc la même disposition, c'est-à-dire l'alinéa 2 de l'article 92, il est dit qu'on peut interdire toute ou partie donc de compte-rendu des débats. C'est-à-dire qu'on peut demander aux magistrats et tout ça, aux avocats, de ne pas faire un compte-rendu sur les débats, si seulement si le huis clos est ordonné. Mais jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas huis clos. Donc eux aussi sont censés échanger avec la presse. Voyez-vous, donc si vous prenez tous ces éléments-là, ça veut dire que déjà... Nous sommes donc, c'est pourquoi moi j'ai parlé ce matin donc d'incertitude, il y a tellement de doutes, c'est-à-dire que c'est ce qu'on nous dira, qu'on prendra comme une Torah. Voyez-vous, c'est-à-dire, on va nous dire oui, telle personne, vous voyez que déjà il y a des amalgames, il y a déjà certains disent que le général dit qu'il a été torturé, or ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire déjà, on se nourrit donc de rumeurs, de suspicions, or le procès se déroule devant nous et nous sommes censés y aller. Voyez-vous donc il y a tellement... Donc c'est la même chose qui s'est passée un peu, si vous permettez, avec le procès Pacha, où à un moment donné, on refusait, après on dit... Je suis en train de faire donc un argumentaire. Oui. Je finis et tu prendras la parole. Je dis, c'est la même chose qui s'est passée au début. On avait empêché, moi j'y étais au début, on avait empêché les Togolais, mais véritablement, du fait de la foule, à un moment donné, il y a, c'est les portables et tout ça qu'on nous a pris. Et après, nous sommes rentrés, au moins nous avons vu ce qui s'est passé. Mais cette fois-ci, on nous empêche même, on ne rentre même pas dans le périmètre. Vous ne rentrez même pas dans le périmètre. Et vous avez vu même les chaînes internationales, c'est sur les vidéos, sur les réseaux sociaux qu'ils ont pris pour faire donc leur reportage. Et même la chaîne nationale, on parlera même du service minimum. La chaîne nationale, c'est en quelques secondes, on a montré donc le présumé coupable, un peu l'assistance, et le journaliste a fait son reportage de quelques minutes, et basta, on parle d'autre chose. Or, c'est une affaire qui concerne la nation.
Merci.
Oui, d'abord, moi, je veux m'assurer d'un fait. Est-ce que quelqu'un a tenté d'aller dans la salle et on l'a refoulé?
Vous ne rentrez même pas dans le périmètre.
Parce que moi, les informations que j'ai, je raisonnais aussi comme lui jusqu'à hier. Mais ce matin, je voulais aller là-bas avant de venir en émission. On m'a dit, vous arrivez, on vous fuit, mais quand la salle est pleine, puis on m'a dit que si tu veux avoir la chance d'être dans la salle, peut-être déjà à 6 heures, il faut traîner dans les parages. C'est pour cela que moi, je suis pas allé. Mais je ne sais pas si quelqu'un est allé
et qui a été empêché
d'avoir accès au lieu.
Moi, j'y étais hier et je n'ai même pas pu le périmètre. Je n'ai même pas. J'étais là autour donc de 9h hier.
Bon, si toi tu es allé, les gens sont allés, il y en a, ben on m'a dit, si tu veux avoir accès à la salle, il faut être matinal. C'est pour cela que je ne suis pas allé, mais j'irai après ou demain. Mais par rapport au procès Pacha, c'était autre chose. Là, les médias étaient accrédités. Moi, j'ai encore mon badge délivré à l'époque par la Cour d'appel suprême de Lomé. que j'ai accroché dans, à mon siège comme souvenir. Et c'est bien identifié. La presse était acceptée. C'est vrai qu'on ne vous permettait pas de filmer et tout cela. Et je crois que pour tous les procès, même ordinaires, on le permet pas. Mm-hmm. Et au procès de Patia, même la TVT couvrait. Et on avait des extraits qu'on passait dans le journal parler. Mais dans ce cas de figure, c'est vrai qu'au départ, il y a eu des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qu'on empêche, ce qui a fait que beaucoup de journalistes n'ont même pas osé aller sur les lieux avant de savoir si, oui, on vous accepte ou pas. Et effectivement, si c'était organisé, comme ça a été fait au procès Patia, avec où on distingue qui est journaliste et qui rentre, je crois que le débat que vous avez eu hier sur les prétendus propos de Kadanga qui aurait déclaré avoir été torturé, au moins il y aurait quelqu'un dans le studio qui aurait dit non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ça voudrait dire que vous tous qui étiez ici, personne n'était dans la salle, vous avez travaillé avec des rumeurs et finalement on se rend compte.
Avec des informations de la
rumeur. Non, puisque finalement ça se révèle.
Avec ces informations,
c'est pour cela, si vous prenez mon journal, moi si je ne vais pas dans cette salle, je n'écrirai pas sur ce sujet. Parce que je n'ai pas écrit. Parce que je n'ai aucune info, et j'ai fait la revue de presse, toutes les infos sont les mêmes. C'est celles qui sont annoncées depuis toujours, c'est elles qui circulent et qui sont réécrites de la même manière. Mais il faut être peut-être dans la salle pour apporter quelque chose de nouveau.
Merci. Alors, ces informations qui circulent, que nous utilisons tous, c'est que il y a le principal accusé, c'est le sieur Sanguine Yendoukoua, et dans le lot, il y a 6 autres dont le général Kadanga, les noms là, ça circule un peu. Mais il y a également un jury, dont la voix est, je crois, consultative, composé des généraux, aussi bien ceux qui sont en activité que ceux qui sont à la retraite. Et nous apprenons également que les co-accusés ont leur avocat, l'État togolais a ses avocats, et même les avocats qui défendent les intérêts de la famille Madjoulba, Estelle, c'est ces informations, comme le dit Fabrice, qui circulent un peu partout depuis lundi et que nous rappelons aujourd'hui.
Si vous lisez bien dans mon article, c'est ce que moi j'ai relevé, tant que nous n'y sommes pas, il ne faut pas spéculer sur les on-dit.
Oui.
Vu que c'est une affaire un peu sensible et tout, il vaut mieux ne pas induire encore les populations en erreur à raconter des choses que nous ne savons pas. C'est les gens qui disent. Mais qui dit, est-ce que la personne est là? Moi, je n'y suis pas allée. C'est pourquoi j'ai annoncé. Nous attendrons tous le dénouement du procès, tout simplement. Donc, il faut faire vraiment attention. Je n'y suis pas encore allée. Je ne suis pas à même d'affirmer aujourd'hui ou de confirmer tout ce qui se dit ou d'infirmer ou pas. Nous attendons peut-être, les dispositions n'ont pas été prises en amont, sinon naturellement on aurait délivré des accréditations aux journalistes qui veulent bien couvrir ce procès-là. Ça n'a pas été fait. Le premier jour, j'ai eu les mêmes informations. On ne pouvait pas rentrer dans le périmètre. Plus tard, j'ai appris que c'était ouvert maintenant, mais que c'était réservé à un cadre très restreint, la famille, les amis proches et tout ce qui s'en suit, et qu'après, ce sera ouvert au public. Ça reste toujours les on-dit. Je n'ai véritablement encore rien vérifié pour pouvoir affirmer, confirmer ou infirmer quoi que ce soit. Donc, on croise les doigts, peut-être les prochains jours, je ferai l'effort d'aller moi également sur le terrain, vivre mon expérience, et dans ce cas, je pourrai revenir et faire un rapport fidèle par rapport à ce que j'ai vécu personnellement sur le terrain.
Pour des sujets aussi sensibles, il vaut mieux s'assurer de soi-même, de première source. Pour le moment, on se contente de ce que nous avons. Pour la dépêche, c'est un procès au garde-à-vous. La manchette parle des pas de l'incertitude, pendant que Gazelle Info attend vivement le dénouement. Cela prendra quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines. Mais quand nous aurons de la matière première, de première source, nous y reviendrons. Et nous continuons avec cette question qui a été débattue en Conseil des ministres la semaine dernière, sur laquelle reviennent deux journaux, par exemple Le Libéral et Gazelle Info. Il s'agit de la réglementation du secteur public des transports, notamment les taxis, les mototaxis et les tricycles. dont le libéral dit que les taxis, motos, taxis et tricycles sont dans le collimateur du gouvernement, et que Gazelle Info dit tout simplement qu'une nouvelle réglementation est en cours, si ce n'est déjà intervenu, parce que le décret a été déjà pris par le gouvernement il y a une semaine, Estelle.
Oui, le décret a été pris et adopté. Quand on observe aujourd'hui un peu la circulation, surtout avec les cyclistes qui causent des dégâts pas possibles, il était important de prendre ces dispositions-là et de les respecter surtout. C'est en cela que j'ai trouvé même le délai un peu long sur 2 ans pour se conformer aux nouvelles dispositions. Mais bon, on espère que d'ici là, ça va vite le faire. La disposition va consister maintenant pour les usagers de ces engins-là à avoir une licence et un agrément, et ensuite pour les engins même une autorisation d'exploitation pour pouvoir écumer encore nos routes. Ceci dans le cadre d'assurer un peu plus la sécurité des personnes même et des marchandises également que transportent ces différents engins-là, et dégager un peu nos routes et assurer plus la sécurité. Dans la foulée, un cadre de concertation également a été créé pour permettre aux différents acteurs de mener les réflexions pour trouver des pistes de sortie de solutions en ce qui concerne tous les problèmes qui se posent dans ce secteur-là.
Alors, le transport notamment, les taxis, motos, les tricycles, c'est un milieu également très sensible. Ils sont un certain nombre de jeunes qui l'exercent. C'est vrai, ils rendent un bon service, mais avec trop de risques auxquels ils sont exposés eux-mêmes et auxquels nous nous exposons aussi, nous les passagers. Pour certains, comme c'est des jeunes qui se débrouillent par eux-mêmes, interdit de toucher. Or, l'État a le devoir régalien de tout réglementer. C'est ce qui a été abordé dans ce décret en Conseil des ministres. Les dispositions, Fabrice, entre autres, si on veut exercer ces activités, il faudra obtenir une licence du ministère. Il faudra également obtenir une autorisation de l'autorité territoriale compétente, avec en amont le permis de conduire, la visite technique, l'assurance et autres. Et pour cela, 24 mois, 2 ans sont laissés aux usagers de s'y conformer.
Oui, mais d'ores et déjà, on peut commencer par s'interroger sur l'efficacité de cette mesure, parce que on se connaît très bien au Togo. Ce n'est pas celui qui viole le feu, c'est pas qu'il n'a pas le permis, hein. Il en a. Il a le permis.
Et celui qui surcharge aussi.
Celui qui surcharge, la preuve, quand il aperçoit le policier de très loin, il dévie. Donc ça voudrait dire que lui-même sait. Moi, je crois que c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait que l'autorité peut-être tape du poing sur la table pour essayer de mettre de l'ordre. Mais quand on veut mettre de l'ordre aussi, bon, moi qui parle, je ne sais pas quelle est la solution. Pour moi, la seule solution, c'est le civisme. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas, aussi longtemps qu'on n'aura pas de citoyens, ça va être difficile.
Citoyens responsables.
Ça va être difficile de régler tous ces problèmes-là, puisque tout le monde est dans la même barque. Vous allez voir, il y en aura, ils vont circuler, ils n'auront pas de ces papiers-là, ils vont négocier avec les agents de sécurité qui vont contrôler, et puis bon, finalement, vous allez vous rendre compte que c'est comme un peu ce qui s'est passé dans la presse. Bon, on dit, on veut mettre maintenant des conditions pour avoir, mais finalement, tout le monde est là. Personne n'est parti. On veut assainir, mais tout le monde a répondu présent. Et d'ailleurs, encore plus nombreux d'ailleurs. Et je crains que ce soit également, à l'issue des 2 ans, vous allez retrouver tous ces gens-là avec leur engin. Ils vont circuler librement.
Mais on va les retrouver, mais est-ce qu'ils auront respecté les conditions que l'État vient de fixer?
Oui, ils ne vont pas respecter. Maintenant, peut-être qu'on va sortir des gens qu'on appelle policiers, gendarmes dans la rue pour essayer de décanter la situation en mettant hors ceux qui ne le méritent pas. Mais vous allez vous rendre compte que ça marchera par moments. C'est comme le boudin. Il y a des jours où ils côtoient les policiers. C'est comme si c'est autorisé. Et il y a des jours où on leur fait la chasse. On ne sait pas si c'est une question de saison. Et c'est un peu cela. Donc, je suis content que le gouvernement comprenne que quand on fait le bilan macabre des accidents, on sent que ces engins-là sont, dans la plupart du temps, parfois, c'est eux les grandes victimes. Puisque... Oui. Quand vous faites le décompte, les motos, les tricycles, ceux qui sont dans les voitures sont un peu plus protégés. Et donc,
il était quand même important que l'État décide de faire quelque chose. Mais maintenant, connaissant nos habitudes, c'est pour cela que j'attire l'attention, pour qu'à un moment donné, cette sensibilisation-là, au lieu de demander seulement les papiers, on pense aussi à la sensibilisation. Vous avez vu, la question des casques, ça commence par venir. Mm-hmm. Les gens se promènent aujourd'hui avec leurs casques. Donc ça voudrait dire que si on met l'accent sur la sensibilisation, c'est une bonne chose. Et puis après, les papiers viendront également appuyer.
Et palme spéciale aux femmes, hein. Maintenant, quand vous circulez à Lomé, vous voyez des femmes qui circulent, qui marchent avec, avec leurs casques.
Ou sous des sécurités. Alors, non, je voulais rebondir sur le sujet. En fait, moi, juste à preuve de jeu, ce n'est pas les raisons qui fondent cette disposition, ou du moins ça, ce décret. Et si le ministre connaît le conducteur, ça va apporter quoi? En réalité, pour mettre son véhicule sur la voie publique, il faut avoir un permis. Et ça se prend déjà. Hein, ceux qui, pour la plupart, qui sont en circulation, ils ont déjà leur permis. Pour nos amis, les émigrants, il y a le permis A qu'on demande quand même à. Et certains se conforment déjà. Maintenant, le papier qu'ils vont prendre au niveau du ministère, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Donc, en réalité, moi, je crois qu'il faut aller au-delà de ces questions de papier. Et sinon, si c'est papier, on va prendre papier. Mais les gens sont à la maison, mais ils n'ont même pas passé le permis, mais les gens ont des permis dans ce pays. Donc, ça veut dire qu'il faut véritablement qu'on aille au-delà de ces papiers. Maintenant, on nous parle de ressort territorial.
Donc, autrement, tu rejoins.
Oui, en réalité, ça.
Fondamental, c'est le bon citoyen.
C'est une question, donc, c'est une conscience individuelle et collective. Parce que si nous prenons. On parle donc de ressort territorial. Certains peuvent quitter Golfe 5 et aller déposer quelqu'un à Goyivé 4. Donc ça veut dire qu'il a passé au moins beaucoup de territoires. Il peut quitter Lomé pour aller déposer quelqu'un à Djengré ou je ne sais pas. Donc il a traversé beaucoup donc, de ressorts territoriaux. Maintenant, bon, si le ministre il prend un papier, il montre au policier, oui, j'ai un papier du ministère. Mais s'il voit le fait de coller, il viole. Vous voyez, donc il faudrait qu'on fasse un travail sur l'homme en soi, c'est-à-dire que le Togolais en soi, c'est-à-dire tu prends ta moto, tu prends ton véhicule, tu vas sur la voie publique, il faut savoir que tu quittes une famille et tu veux retrouver cette famille-là sain et sauf. Donc c'est une question de conscience individuelle et collective. Si nous sommes dans ce cas-là, je crois que ça va aller. Donc, il faut sensibiliser.
Mais tu es déjà arrivé à la conclusion, voilà, en fait. Quoi. Donc, c'est une question personnelle. C'est une conscience personnelle qui doit travailler. Mais au-delà de ça, il faut dire que certaines dispositions sont déjà mises en application, sauf que tout le monde ne les respecte pas. Moi, l'analyse que je fais de cette décision-là, c'est d'abord répertorier toutes ces personnes-là et essayer d'avoir peut-être une base de données bien définie pour pouvoir sanctionner éventuellement au cas où il y aura toujours des récidivistes ou ceux qui ne vont
plutôt
pas se
accompagner.
Plier. Ou, oui, disons, mais appelons les choses par leur nom. S'il y a des récidivistes qui ne veulent pas se plier, quand on l'a fait avec les casques aujourd'hui, on constate que bon, les gens sont au pas. Malheureusement, le Togolais attend toujours qu'il y a le gendarme derrière lui pour rentrer dans les rangs. Donc, si c'est ce qu'il faut... Je crois qu'ils vont y aller au bout des 2 ans. Peut-être les sanctions vont tomber.
Vous avez tout dit. Hein, tout se résume au civisme et à la prise de conscience individuelle. Parce que le casque, hein, le contrôle du casque, qui passe assez bien ici à Lomé, à l'intérieur, ce n'est pas toujours le cas. Il nous revient qu'à Kara, par exemple, les policiers et les gendarmes ont beaucoup reculé devant les conducteurs.
Les gens circulent encore sans casque. Alors, j'en ai vu moi-même. Donc
c'est une question de prise de conscience. Alors, si les gens comprennent, ils n'ont pas besoin qu'un policier, un gendarme se tienne derrière eux. Mais si on estime que c'est ma propre tête et que je peux en faire ce que je veux, attention. Et à ce niveau, il nous revient qu'une autorité à Kara aurait dit une forme de démission quand même, quand l'autorité dit que même si les gens ne portent pas le casque de leur vivant, ils le porteront peut-être dans la tombe. Bon, donc, vous avez tout dit. Hein. Le problème, c'est sensibiliser. Et peut-être que le ministère des Transports va sortir avec les syndicats. Si on explique abondamment, les gens comprendront et pourquoi pas, ils vont s'y conformer. J'ai souhaité qu'on parle également des productions agricoles, parce que vous en avez fait ainsi dans vos parutions de ce jour. On va quand même l'évoquer, quitte à prendre quelques minutes chez les auditeurs. Estelle, ton journal Gazelle Info, à la page 9, tu nous parles du coton, avec ce constat, encore une fois, que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. pour dire que la production du coton au Togo sera encore en deçà de nos attentes. De l'autre côté, il y a le soja qui continue à avoir le vent en poupe avec ce que tu dis, que les acteurs de la filière se retrouvent remis en confiance. Cette confiance que partage également la manchette, mais qui demande que l'État joue franc jeu pour la nouvelle saison du soja. Estelle?
Oui, les résultats sont là. Est-ce qu'on doit encore épiloguer là-dessus? Olam a pris 60%, le Togo a 40%. Nous avait promis combien de résultats, mais c'est, les productions sont même aujourd'hui en dessous de ce qu'on avait quand l'État togolais seul gérait la société cotonnière. Donc, il appartient à l'État de faire l'état des lieux et de reprendre des décisions s'il le faut, tout simplement. Mm-hmm.
Alors, pour le soja, c'est comme vous, Sylvestre, la saison passée, il y a eu beaucoup de micmacs.
Ouais.
Mais cette année, on sent que l'État prend les décisions, commence à prendre les décisions à temps. La filière, les acteurs de la filière également, tout le beau monde là, semble tenir un discours un peu à l'unisson.
Oui, tel que tu l'as si bien dit. L'année dernière, il y a eu tellement donc de problèmes, si bien qu'à la fin donc de la campagne, 80 000 tonnes donc de soja étaient encore sous les bras donc des producteurs, ne savent même pas comment écouler donc.
Et justement, ils en ont fait quoi finalement, les 80 000 tonnes?
C'est l'occasion également de retourner. Mais sûrement, ils trouveront quand même des formules, mm-hmm. parce que les agréments n'étaient pas sortis à temps. Hein, les premiers percevaient leurs agréments autour donc de décembre. Or, ce devait être un peu autour donc de octobre et tout. Mm-hmm. Donc, si bien que certains commerçants et exportateurs ont vu leur contrat résilié, surtout ceux qui sont donc dans l'exportation. Mais cette année, au moins déjà le 18 octobre dernier, il y a eu ce lancement officiel de la campagne. C'était pas le cas l'année dernière. J'ose croire, on espère quand même que les agréments seront donnés aux commerçants pour que tout se passe bien. Encore qu'ils ont fixé le cap donc de 300 000 tonnes cette année.
De soja.
Hein, atteint donc le plein donc de 300 000 tonnes, comparativement à l'année dernière qu'ils étaient à 280 000 tonnes. Donc on espère que tout va passer comme sur des roulettes et que tout le monde donc profite véritablement.
Si on termine avec ce dossier que Togo Matin fait sur deux pages, intitulé « Promotion de la culture du sorgho et des tubercules au Togo, des opportunités à saisir ». Pas les agriculteurs. L'ambition, par exemple, de produire jusqu'à 10 000 tonnes de fonio, c'est tenable. La filière des tubercules, le maïs, le manioc, l'igname, la patate douce, le taro et consorts. Nous avons beaucoup d'espace vert. La saison est assez arrosée, bien Fabrice, qu'on retrousse les manches et qu'on produise beaucoup pour nous-mêmes.
Oui, je crois que cette année, la pluviométrie, j'espère qu'elle n'a pas été excessive à certains endroits, parce que parfois aussi on veut la pluie, mais quand elle est trop excessive, c'est pas bon pour certains produits. Mais de toutes les façons, l'État togolais, elle semble ne jurer que par l'agriculture aujourd'hui, en témoignent plusieurs initiatives qui sont prises ça et là pour essayer de garantir cette autosuffisance alimentaire qui a été déclarée depuis des décennies. Et je crois qu'aujourd'hui, comme on l'a compris, la question de la mécanisation de l'agriculture est plus qu'importante, puisqu'on sent quand même que les méthodes archaïques ne sont pas de nature à assurer une très bonne production. Et aujourd'hui, des cadres aussi sont en train d'être formés à plusieurs niveaux pour qu'on sorte de cette agriculture de subsistance-là pour arriver à...
Merci beaucoup. Nous avons parlé du démarrage aujourd'hui même du marché international de l'artisanat togolais. On a partagé quelques articles de santé et éducation. Nous avons reçu notre ami Stéphane Awiti qui nous a parlé de la problématique de la lutte contre le cancer du sein, la réalité du problème, tous les défis qui se profilent devant nous et la solidarité, la générosité. Donc, devrions témoigner. Puis, on a continué avec la justice militaire et puis quelques autres articles sur lesquels nous attendons après ce moment de pause.
13.5. Canal FM.
Nous sommes de retour au studio et nous lançons les deux numéros, le 22-21-33-74, le 91-36-63-75, pour recueillir vos questions, vos commentaires. Premier auditeur, bonjour.
Allô.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur.
C'est Johannes.
Johannes.
Ma première question à monsieur Stéphane.
Oui.
Il paraît que les hommes aussi peuvent souffrir de cancer de sein. Est-ce que c'est réel?
Mm-hmm.
Et maintenant, je viens au procès pour dire que, bon, vous savez, concernant... Finalement, je me dis, il y a un journaliste qui dit que on ne l'a même pas permis d'approcher le périmètre. Et un autre qui dit que ben il est allé, bon, on lui a juste dit qu'il suffit de venir à l'heure. Là, là où je vois...
Il est parti malheureusement. Mais sur ce sujet, nous avons des témoignages récurrents des confrères qui nous disent que l'accès au procès est libre à condition de s'y présenter assez tôt et de ne pas, enfin, de ne pas porter sur lui, sur soi plutôt, des téléphones ou bien des caméras. Et c'est des confrères sur le terrain qui nous renvoient ça. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour. Oui. Monsieur Koffi.
Pardon?
C'est Monsieur Koffi.
Monsieur Koffi?
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Allô?
Oui, nous vous écoutons.
Oui, il y a un téléphone qui fondisse dans mon tympan là.
Non, c'est peut-être chez vous. Sinon, moi, je vous écoute.
Non, chez vous là-bas. Ça sent bien là-bas, là.
Non, parlez quand même. Je vous écoute.
D'accord. Je voudrais interpeller votre invité qui parlait du cancer.
Pardon? Du cancer?
Oui.
Oui.
Voilà. Mon inquiétude se trouve à tout ce qu'ils ont dit. Parce que au moment du Covid, c'est comme ça qu'on recevait des gens. Vous recevez des gens sur les antennes et on les écoutait. Ils promettaient des choses, hein, des tas de choses. Mais au finish, on a eu plein de morts. À la fin, ils se sont même cachés. Qu'est-ce qu'ils nous trouvent maintenant? Et cette fois-ci, ils vont vraiment opérer. Ils ne sont pas pour aller demander en nom à l'étranger pour revenir. Et puis après, ce sera toujours le même constat. Là, c'est pour eux ça. Maintenant, je reviens à votre collègue qui parlait des gens de tricycle, des immigrants, que le temps octroyé pour... la soi-disant licence, que c'est pour elle, c'est trop court. Et parce que c'est un plaisir pour ceux-là. Et parmi eux, il y a des diplômés, peut-être plus diplômés qu'elle là-bas. Ce qu'elle a dit là, pour moi, ça ne passe pas. C'est pas parce que on est nanti, entre parenthèses, qu'il faut brûler les autres. Zénithan, pour moi, c'est pas un boulot. Si le gouvernement a failli à sa politique, d'emploi, je ne vois pas.
Merci, l'ami Koffi. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une question de diplôme, hein, c'est une question de sécurité publique et de conscience individuelle et publique. Et pour ce qui, vous avez parlé de la COVID, hein, je me félicite et je félicite les invités que nous avions eus à ce plateau en ce moment. C'était des gens responsables. Hein, des officiels et des médecins qui étaient venus nous parler des mesures à prendre, hein, pour que le Togo ne soit pas victime d'hécatombe pour la COVID. Et le Togo a enregistré officiellement moins de 300 morts et nous sommes fiers d'avoir participé à ce combat. Pour ce qui est maintenant du cancer, Stéphane va vous répondre dans un moment. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
C'est monsieur Riva. Hein.
Monsieur
Riva.
Riva.
Oui.
Ok, allez-y.
Je vous appelle depuis Dijonais.
Ok, nous écoutons M. Riva.
Oui, j'aimerais poser la question à celui qui parle du cancer avec vous, là.
Oui.
Bon, il y a des radios, des médias au Togo qui parlent d'un produit qui guérit le cancer du sein. S'il y a une tumeur au niveau du sein, et on prend c'est un complément alimentaire, on prend ça et ça va attaquer la tumeur et la détruire et la personne sera guérie.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est vrai que ce produit-là a guéri le cancer du sein?
Ok.
Merci. Si c'est un étage, un stade avancé.
Merci beaucoup pour la question directe. L'auditeur suivant?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Georges depuis Ségué.
Georges depuis Ségué, nous vous écoutons.
Oui, moi, je voulais intervenir sur le truc des tricycles.
Oui.
C'est bon, c'est une bonne décision, mais personnellement, je pense que ça ne va pas marcher. Quand vous voyez comment les gens conduisent sur la route, quelqu'un l'a dit chez vous, là-bas, ce n'est pas une affaire de permis, d'autorisation, de licence. Il faut une vraie sensibilisation, déterminer les vraies causes. Aujourd'hui, l'État est en train de taxer le conducteur, alors que ce n'est pas seulement la cause. Pourquoi on a décidé que les conducteurs et les passagers aillent sous leur casque alors qu'il y a problème de route, problème de feu tricolore, problème de trou, problème, il y a beaucoup de problèmes qu'ils devaient pouvoir régler, qui vont résoudre ne serait-ce qu'un temps soit peu ce problème de mort sur nos routes. Mm-hmm. Mais on laisse, et c'est le client seulement, ou bien le peuple seulement qui doit payer, qui doit payer, qui doit payer. Moi, je pense que ça ne va rien résoudre.
Merci beaucoup. La question des infrastructures, c'est pertinent. Mais il y a, dans les causes des accidents, il y a les causes techniques et les causes humaines. Hein? Les causes humaines, hein, on s'y attaque en demandant à l'État également d'améliorer les infrastructures. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô.
Oui.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Et si nous vous écoutons?
Oui, vous avez parlé du cancer du sein.
Oui.
Oui, cancer du sein. La tension, la vessie, toutes ces maladies viennent du stress, des soucis qu'on vit dans le pays, quoi, de la précarité, tout ça là. Et pour se faire et se virer. Et puis on n'a même pas de structure médicale hein, appropriée, on n'a pas de cancérologie.
Si, si, et si depuis quelque temps, il y a des structures de prise en charge de cancer ici au Togo.
Prise en charge, oui. Et ça va coûter combien? Le monsieur va nous répondre. Ça coûte combien par rapport aux pays limitrophes?
Ok.
Et en France, par exemple. Pour l'histoire du jugement du procès, là, en privé, qui se passe en ce moment, moi, je voudrais que ça démissionne, quoi, comme tu le sais, pour laisser vivre un peu ce peuple. Que ça démissionne pour qu'ils en ont encore un peu dans les tripes et un peu de dignité. Ils doivent démissionner pour nous laisser vivre. Parce que c'est un peu qui se meurt en
qui
France.
Devrait démissionner selon vous?
Oui.
Pardon?
Le régime doit démissionner.
Il y a vraiment trop d'écho. Hein, si on n'a pas bien écouté, on n'arrive pas à bien écouter. Et si nous en excusons. Juste le dernier auditeur pour laisser le temps aux amis de vous répondre. Oui, bonjour.
Bonjour, c'est
oui.
Armand.
Oui.
Bonjour, le plateau. Il faut dire que concernant le cancer, c'est bien de faire d'octobre un mois de sensibilisation. Mais je pense qu'il faut aller au-delà parce que les résultats montrent bien que le dépistage rapide du cancer permet d'avoir de bons résultats.
Mm-hmm.
Concernant les mesures sur nos routes, c'est vrai que le gouvernement pense vraiment trouver des moyens, des voies et moyens pour résoudre ce problème. Mais le problème est que l'incivisme grandissant, je ne sais pas comment le gouvernement doit...
Nous l'avons dit, c'est une question aussi bien individuelle que collective, le civisme et le savoir-vivre en société. Merci à vous, Armand. Merci à tous les amis qui nous ont appelés. Un impératif, puis nous revenons pour les questions, pour les réponses.
93.5. Canal FM.
Eh bien, nous revenons pour ramasser rapidement vos questions. Stéphane, rebonjour.
Bonjour, Sassi.
Un auditeur a dit qu'il semblerait que les hommes aussi souffrent du cancer du sein, vrai ou faux?
Tout à fait vrai.
C'est vrai?
Oui, jusqu'à proportion de 1%, mais non négligeable.
Mm-hmm.
C'est là où nous conseillons les hommes qui ont les poitrines comme les femmes de faire leur auto-examen de sein chaque mois.
Mm-hmm.
Ils choisissent un jour du mois pour pouvoir faire leur auto-examen de sein pour voir s'il n'y a pas une anomalie dans leur sein et consulter rapidement un spécialiste. Mais néanmoins aussi, nous parlons des hommes qui ont de petites poitrines. Si vous avez des anomalies, il faut aller à l'hôpital parce que nous avons reçu dans notre bureau des hommes qui ont des poitrines très minces. Ils n'ont rien sur leur poitrine, mais ils ont des tumeurs.
Merci. Deuxième question. Il semble qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il vend des produits qui guérissent le cancer du sein.
Ça, c'est faux. Jusqu'à 17 ans que je suis dans ce combat, aucun produit, à part le protocole traditionnel, conventionnel, qu'on a institué depuis pour pouvoir prendre en charge les malades de cancer, il n'y a pas d'autres produits. On parle des fruits, courroux, etc. C'est faux. Merci ça, je beaucoup. Peux vous le dire sincèrement.
Quelqu'un voudrait savoir tout ce que votre campagne là, c'est pas pour arnaquer les moyens que vous allez mobiliser. Est-ce que c'est pour vraiment investir dans la problématique de la lutte ou bien pour d'autres calculs?
Oui, là, je pense que la personne a fait une belle réflexion. Je voulais même recadrer même la lutte contre le cancer, la célébration de l'Octobre rose, parce que depuis quelques années déjà, on voit d'autres acteurs qui viennent sur le terrain pour s'exhiber, pour dire qu'ils font la sensibilisation sur le cancer du sein. Mais je pense qu'on doit aller au-delà de ce simple fait de faire la sensibilisation et maintenant mobiliser, témoigner la générosité, faire une solidarité agissante pour pouvoir vraiment faire quelque chose pour que l'État puisse accompagner cette lutte. Collecter des fonds, mobiliser des fonds pour pouvoir faire de grands dépistages de masse et pouvoir ensuite prendre en charge les malades indigents et vulnérables. C'est très important. Sinon, s'il faudrait aller demander des fonds par-ci, par-là, chez les partenaires, pour pouvoir avoir des fonds pour faire la célébration, je pense que ça, je pense que nous, on a dépassé cette stade-là.
Merci. Alors, sur le terrain, il semble que vous avez une activité en vue avec une clinique.
Nous avons, disons, deux ou trois activités pour pouvoir terminer la fin de la célébration. La première activité a déjà commencé avec l'hôpital Dr Alafia, qui est l'hôpital de référence. On a commencé la campagne de dépistage le 23 passé, le lundi passé, qui finira le 3 novembre. Mais ça, c'est le cancer du sein couplé avec le cancer du corps de l'utérus. Il faut aller visiter l'hôpital Dr Alafia pour voir les appareils. C'est des appareils vraiment de très performants.
Ensuite,
et le samedi, là, il y aura le 28, une grande sensibilisation dans l'enceinte de l'hôpital Dr Alafia. Tout le monde peut y participer. Ensuite, nous avons encore une grande activité aussi au niveau du centre de radiothérapie, une grande marche qui va commencer au niveau du centre, qui va sillonner un peu la lenteur et revenir pour faire un truc de fitness, Zumba, et faire un dépistage aussi et qui sera gratuit pour le cancer du sein, par autopalpation, le cancer du sein et le cancer du corps de l'utérus.
Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle que samedi 28, ce sera le dernier samedi du mois, la journée nationale du sport, à l'effet du sport, un peu pour soi-même.
Voilà.
Pour ça, pas seulement parce que le gouvernement l'a demandé.
Oui.
Alors, le temps est serré, mais on va avoir quelques secondes pour chacun. Fabrice? Bon, allons-y directement au carton, parce que vous n'avez pas le temps de répondre aux questions.
Bon, pour le carton, je n'en ai pas pour ce jour. Je remercie tout simplement les auditeurs et également les lecteurs de nos journaux.
Merci. Coco Sylvestre?
Non, je n'ai pas de carton, mais je voulais aller dans le sens que l'auditeur là qui dit qu'il ne faudrait pas que Octobre soit initiative pour commercer, parce que généralement, c'est ce que nous voyons chaque 1er décembre, tellement d'associations font le commerce sur le sida parce qu'on aurait pris quelques fonds des partenaires et après, on dépiste quelques filles et puis bon, ou quelques hommes et puis basta. Donc, il faudrait qu'on recadre véritablement l'initiative pour que ça profite à nos femmes, à nos épouses, à nos mamans.
Donc, merci. Voilà, merci. Estelle?
Non, juste abonder dans le même sens que Sylvestre, en attirant encore l'attention des autorités par rapport à la préoccupation en ce qui concerne le cancer des seins et naturellement toutes les autres pathologies, hein, la mise en place des structures adéquates pour l'accueil des patients et tout ce qui s'en suit. Donc, beaucoup de courage et je vous exhorte à poursuivre la sensibilisation sur tous les jours de l'année, pas seulement à l'octobre pour l'intensifier. Beaucoup de courage à vous et je n'ai pas de carton.
Il y a quelqu'un qui nous envoie une pique à Stéphane et à moi de ne pas seulement attendre octobre pour l'inviter au club de la presse. Je prends pour moi. Oui, Abel aussi.
Bon, pas de carton, mais encore l'alerte. On a parlé du cancer du sein, mais encore une alerte concernant les AVC. selon encore des chiffres, 2500 personnes ont été victimes cette année, l'année passée
2022. Et c'est ce qui a été enregistré dans les hôpitaux, ça.
2500 personnes ont été victimes d'AVC et 1000 personnes en sont mortes.
Mm-hmm.
Donc, encore l'alerte est lancée. Il faut agir.
Il faut agir. Stéphane, le mot de clôture de l'émission de ce jour.
Je pense que, bon, pas grand chose, mais que ce mot-là, les bonnes graines, pour pouvoir en retour attendre de bonnes récoltes. Et même si nous, de notre vivant, nous n'arrivons pas à profiter,
si, nous serons
nos,
là.
Nos descendants et d'autres personnes profiteront pour pouvoir nous témoigner vraiment cette gratitude.
Stéphane, rassure-toi, nous ne sommes pas éternels, hein, mais nous commencerons à voir les fruits de nos investissements avant de partir dans l'au-delà.
Merci beaucoup.
Je t'en donne l'assurance.
Merci beaucoup.
Eh bien, c'est sur cette fois-là que nous vous remercions encore une fois en vous donnant rendez-vous d'être au Club de la Presse demain jeudi à 11h.